Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter au sommaire de l'émission jusqu'à 14h. Comme tous les dimanches, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis l'invité du grand face-à-face, il est philosophe, professeur à Sciences Po, président du think tank Génération Libre. Il défend la pensée libérale dans la presse et dans ses cours. Il publie récemment une tribune qui prônait la légalisation du cannabis en France. Autant dire qu'il pousse loin la logique du libéralisme, loin mais jusqu'où. France Inter ouvrira le débat avec Gaspard Koenig dès 13h30.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer avec une histoire d'amour, le Royal Wedding, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, la pompe de la monarchie britannique, la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, des robes, des chapeaux, on adore ça. Et je vous sens ému tous les deux. Raphaël.
Honnêtement, je m'en moque royalement puisque c'est le mot du jour. Ah oui, non, je me moque complètement. Par contre, je pense qu'il y a
donc des... Donc vous vous sentez un peu seul, considérant la fascination que suscite ce mariage, non seulement en Grande-Bretagne, mais ailleurs.
Mais je suis très content que deux personnes se marient, ou d'ailleurs que deux personnes s'aiment en général, même sans se marier. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est on peut en discuter, c'est la capacité qu'ont les monarchies aujourd'hui européennes à dissocier d'un côté un champ symbolique et le champ politique. Et que du coup, les gens peuvent être fascinés par des symboles, mais ils n'ont pas à faire de révérence ou à Theresa May. Alors, je ne suis pas devenu monarchiste dans la nuit, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'en gros, en France, on a le même type, pas autant, hein, mais le même type de fascination pour les couples présidentiels. Simplement, eux, ils ont réellement le pouvoir.
Donc, beaucoup à la limite, moins.
Oui, mais ici, il y a quand même un truc. Oh, regardez comme il tient sa main, regardez comme il tient sa main, c'est extraordinaire. Et non, mais beaucoup moins.
Enfin,
je suis d'accord.
Ça mobilise pas un pays tout entier.
D'accord,
des
d'accord.
Dizaines de millions
mais
de
en un sens, voilà, il y a d'un côté la société du spectacle qui est incarnée par la monarchie, et de l'autre, Theresa May habite dans une maison normale, Downing Street, et dont on ne fait pas un personnage people. Donc à la limite, cette séparation-là du people et de la politique me convient.
Natacha.
En effet, à ceci près que finalement la spécificité française est peut-être dans le choix de De Gaulle de produire une constitution qui voulait non pas réunir le people et le pouvoir, pas
le
du
symbolique.
Tout, mais en effet prendre en charge le symbolique et le prendre en charge en fusionnant ce qu'incarne le chef de l'État et ce qu'est la nation, avec derrière cette idée que la nation est souveraine et que donc c'est le peuple qui, par la nation, et donc par son chef de l'État, exprime son indépendance. Donc vous voyez, il y a une chaîne symbolique comme ça, alors que dans la monarchie, et c'est peut-être ça qui est assez, à la fois assez drôle et assez consternant, c'est que dans cette monarchie telle qu'elle est réinventée en permanence par la société de consommation, finalement, ce que prend en charge la monarchie anglaise, c'est le besoin de spectacle, et une espèce de quintessence de spectacle qui va jusqu'au bout de la logique, puisque l'argent, les retombées commerciales attendues sont quand même s'élèvent à 1 milliard.
C'est absolument considérable.
C'est énorme.
Et en termes de fascination, et vous devez vous sentir un peu seul, Raphaël Glucksmann, qui vous fichez de cette union, on estime à 3 milliards de téléspectateurs le nombre de personnes qui ont vu donc le mariage de William, le frère aîné de Harry. 23 millions aux États-Unis, par exemple, qui est une république. Toutes les monarchies ne suscitent pas ça. Il se trouve que c'est la monarchie britannique. Pourquoi celle-là? Et est-ce que les princes et princesses de la monarchie britannique sont des people comme les autres?
Mais celle-là, c'est celle qui a réussi à se mettre en scène le mieux, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que ça date pas d'hier. Simplement, elle a réussi à prendre. Elle était déjà une monarchie à tendance impérialiste, c'est-à-dire que la reine était reine en Australie aussi bien qu'au Canada et en Inde. Donc c'est déjà une monarchie à vocation quasi universelle, la monarchie anglaise. Et ensuite, elle a réussi à prendre le tournant sous cette reine-là, cette majesté-là, Elisabeth II, à prendre le tournant de la société de consommation ou du consumérisme assumé. Et donc, elle s'est transformée en brand, en marque. Bien sûr,
on consomme. Mais il y a aussi toute l'histoire de la monarchie britannique.
Mais c'est génial, l'histoire qui est transformée en produit de consommation.
Du Royal Wedding, Natacha.
Oui, enfin, ce qui est très drôle, c'est de voir à quel point, en fait, l'histoire de la monarchie n'existe plus que sous forme caricaturale de quelques symboles qui sont mis en avant. Mais ce qui intéresse les médias qui se pressent et qui nous vendent ce spectacle-là, ce n'est absolument pas l'histoire de la monarchie. C'est le conte de fées moderne. C'est la petite bergère qui vient épouser le prince. Parce qu'en
une
fait, ex-comédienne c'est ça qu'on nous a
divorcée,
raconté.
Personnage de série, métisse,
bien
c'est
sûr.
Quelque chose que relèvent beaucoup de commentateurs en Grande-Bretagne.
Et on joue la comédie de la modernité. Et
pourquoi
on...
la comédie?
Parce que derrière tout ça,
vous
il y a quelque chose
vous n'êtes vraiment pas romantique,
qui...
ni l'un ni l'autre, c'est désespérant.
je pense qu'il n'y a strictement rien de romantique dans la façon dont est construit ce récit. Qu'il y ait du romantisme dans ce qui fait l'intimité de ce couple, très certainement, je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, dans la construction médiatique, il y a l'intégration de tous les ingrédients qui vont en faire un bon récit. Et c'est cela, en effet, que réussit la monarchie britannique, alors qu'entre nous, la monarchie belge, par exemple, n'apporte pas tout à fait ne comble pas ce besoin.
Non, mais la famille princière à Monaco, par exemple,
oui, elle le fait ça très bien.
Un rôle à peu près comparable.
Ou en Espagne aussi, en partie. Et il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Alors, encore une fois, moi, je suis un républicain fervent. Je suis absolument convaincu.
On ne vous demande pas de devenir monarchiste.
Par contre, ce que je pense, c'est que ça peut nous interroger pourquoi en France, la démocratie fonctionne, le rapport au pouvoir, le rapport critique au pouvoir, fonctionne peut-être moins bien que chez nos voisins qui sont pourtant monarchiques. C'est très simple. En France, il y a un phénomène de courtisanerie alors qu'on vit en République qui est beaucoup plus fort. La prosternation des médias et des Parisiens devant devant le monarque, mais traditionnellement,
c'est vraiment paradoxal,
traditionnellement est plus forte en France depuis De Gaulle, c'est vrai, est plus forte en France chez nos voisins. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir politique en France, ceux qui détiennent le pouvoir politique, sont investis d'une forme symbolique, d'une sorte de sacralité, alors qu'il y a eu une disjonction dans les monarchies constitutionnelles.
C'est pour certains présidents de la République.
Non, alors justement, c'est tout le problème, sans doute, c'est que notre système a été conçu par De Gaulle, qui finalement était... quasiment monarchiste au fond de lui-même, qui a hésité à un moment donné à rétablir la monarchie en France et qui a gardé cette idée que celui qui portait le pouvoir devait aussi porter l'ensemble de l'histoire, de l'identité du pays.
Vous ne pouvez pas comparer le général de Gaulle étant Yvonne avec le prince Harry et Meghan Markle.
Non, justement, je ne le fais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le problème du système français est qu'il est grippé puisqu'il nécessite que celui qui prend le pouvoir se détache de sa personne intime pour ne garder que la personne symbolique et pour n'être que l'incarnation de la nation. Alors que chez les Anglais, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement que, en effet, l'incarnation de la mémoire de la nation, c'est cette famille assez foutraque. Alors, ça pose certains problèmes quand il y a des divorces un peu crapoteux. Mais sinon, globalement, c'est pas très compliqué à gérer. Chez nous, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu, par la République, intégrer le peuple. C'est-à-dire que la nation et le peuple s'incarnent à un moment donné dans cette symbolique qui est portée par un homme, mais il n'existe pas en tant qu'homme, il ne doit pas se mettre en avant en tant qu'homme.
Encore un mot. C'est gaulliste au sens plus strict. Or, en France, même il y a toujours eu en France cette sacralité de la politique, mais simplement la Troisième République, par rapport à la Cinquième, la Troisième République, on sacralise les institutions de la République, on sacralise l'école, on sacralise la figure du hussard noir, on sacralise toute une série d'institutions républicaines, on sacralise finalement la République elle-même. Ce qui se passe avec la Cinquième République, c'est qu'en fait, on sacralise la personne du président de la République en tant que symbole, pas en tant que corps intime.
Qui doit s'effacer derrière ces institutions, oui, mais sauf que ça veut dire que
c'est la figure du chef, du père, du roi qu'on sacralise.
C'est bien le problème, je suis d'accord.
Un dernier mot, vous préférez le glamour et les paillettes de Cannes ou le grandiose du Royal Wedding ?
Écoutez, tout cela relève tout de même du spectacle, en effet.
Je préfère ni l'un ni l'autre.
Vous n'aimez pas l'amour.
Oui, je suis vraiment méchant.
Mais le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et dans l'actualité, l'Italie et ce qui se joue sur la scène politique chez nos voisins avec l'alliance entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. Écoutez Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue du Nord, suivi de la félicitation de Marine Le Pen.
Nous devons faire un nettoyage de masse en Italie, rue par rue, place par place, en utilisant la manière forte.
Deux visions du monde se font face, deux conceptions de l'homme et du monde diamétralement opposées. Irréductibles, exclusives l'une de l'autre. Un face-à-face que l'on trouve en France, mais aussi en Europe, comme le prouve la coalition allemande ou les élections italiennes. Matteo, j'en profite pour te saluer et te féliciter de la part de tout le Front National.
Et c'était donc en mars dernier, au lendemain du succès de la Ligue du Nord. Raphaël Glucksmann, vous teniez à revenir sur ce qui se joue chez nos voisins. Est-ce que c'est un cas particulier, une histoire italienne, ou est-ce qu'au fond, cette alliance, cette plateforme de gouvernement, cette jonction entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles pourrait faire école ?
C'est-à-dire qu'on a toute une série comme ça de cas qui, à chaque fois, nous dit-on, sont particuliers. Et effectivement, chaque cas est particulier, l'Italie a sa propre histoire. Mais là, il s'agit d'un événement qui est, en un sens, plus profond que ne l'était le Brexit. Le Brexit, c'est la sortie de l'Union européenne d'un pays qui a toujours été, en quelque sorte, en marge des institutions européennes. C'est un moment important de l'histoire européenne qui devait nous faire réfléchir, et peut-être n'a-t-on pas assez réfléchi. Mais là, l'Italie, c'est un membre fondateur de l'Union européenne. C'est le pays qu'il y a encore quelques années était le plus europhile du continent. Et c'était surtout le pays, si vous vous souvenez bien, où il y a 3 ans, toutes les élites européennes regardaient l'Italie en disant « ils ont trouvé la solution », qui s'appelait Matteo Renzi. Il était jeune, il était brillant, il était réformateur.
Il était beau, il sentait bon le sable chaud.
Il avait tout ce qui caractérise peut-être d'autres figures politiques actuelles, y compris chez nous, et qu'on célèbre. Et en 3 ans, il y a eu un renversement de la situation politique totale en Italie. Et cette alliance du mouvement 5 étoiles avec la Ligue du Nord, et la Ligue du Nord, encore une fois, il faut bien prendre en compte ce que c'est. C'est un parti, un mouvement qui s'exprime comme le Front National ne s'exprime plus. Nettoyé dans l'extrait que vous avez dit. Qui ne refuse de condamner quelqu'un qui prend une carabine pour aller tirer sur les Noirs dans la rue.
C'est un parti qui se revendique lui-même comme post-fasciste.
Et donc, on a, avec Salvini, ce qui se fait de pire dans les extrêmes droites européennes, qui va accéder au gouvernement, au pouvoir. Et il y a là un immense danger. Je pense qu'aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, on le traite de manière extrêmement légère. C'est page 8 des journaux. Et c'est quelque chose qui va nous exploser à la figure.
Natacha Polony.
Je pense qu'il y a 2 points sur lesquels il faut réfléchir. Le premier point, c'est la façon dont, par un traitement médiatique, en effet, qui absorbe les événements, on nous a expliqué pendant plusieurs semaines là, que de toute façon, ces gens-là n'arriveraient jamais à s'entendre, que leur programme ne coïncidait pas, ne pouvait pas se mettre d'accord. Or, ce que nous observons, c'est que finalement, ce qui rassemble le mouvement 5 étoiles et la Ligue est sans doute plus fort que ce qui les oppose, à savoir que ce qui les rassemble, ce qui est fondamental, c'est la remise en cause de ce système au sens large, système incarné actuellement par l'Union européenne.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mouvement 5 étoiles peut proposer dans le même temps une flat tax et le revenu universel.
Mais parce que ces questions économiques semblent finalement accessoires quand vient le fondamental qui est de remettre en cause ce qui apparaît comme une oligarchie. Et c'est pour ça que le deuxième point sur lequel nous devons réfléchir, c'est le fait que, en effet, Raphaël a raison, on nous avait vendu la solution comme étant la perpétuation du système sous une autre forme, plus moderne, plus sexy, etc. Là, ce qu'on voit, ce qu'on entend dans l'extrait que vous avez passé de Marine Le Pen, c'est en effet qu'elle se réjouit, puisque c'est la consécration de tout ce qu'elle prétend porter, mais avec des termes d'une violence symbolique assez forte quand elle parle de diamétralement opposé, en appuyant bien d'ailleurs dans la voix exclusive, ce sont des visions exclusives du monde. Ce qui signifie en fait qu'on est dans une radicalité et dans une binarité qui n'est pas plus intéressante politiquement que ne pouvait l'être cette espèce de faux clivage gauche-droite dont on est en train de sortir.
Mais alors cette alliance entre l'extrême droite là-dessus. Et quelque chose comme une forme de populisme.
On nous avait expliqué que ça ne pouvait pas marcher,
exemple,
sauf que ça marche.
Mais ça marche,
Raphaël Glucksmann.
Et quand vous avez dit, les questions économiques et sociales ne sont pas essentielles dans leur tête. Mais c'est précisément un des problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été critique sur l'emploi à tout va de l'expression populisme. Parce qu'il faudrait définir ce qu'on entend. Mais là, elle me semble justifiée. Pourquoi ? Parce que cette alliance illustre ce qui caractérise, en un sens, tous les mouvements dits populistes. C'est-à-dire une forme de flou. De flou sur les questions socio-économiques et de flou dans la question du programme et du projet. Parce qu'effectivement, la dynamique populiste, la stratégie, le populisme en tant que stratégie politique, définit que l'existence de l'oligarchie est le problème premier et finalement peut-être même le problème dernier, voilà. et que tout doit se définir par rapport à ça. Donc le « nous », c'est nous qui nous opposons à cette oligarchie.
C'est pour ça que je soulignais les mots de Marine Le Pen sûr. Qui sont dans la binarité.
Bien sûr, dans la binarité totale, mais c'est ça la stratégie populiste bien en sûr. Politique.
Alors qu'il faut une pensée dialectique pour dépasser
le
système tel qu'il existe
le problème
aujourd'hui.
Qui se pose, c'est que finalement, ils ont deux projets socio-économiques a priori antithétiques, la Ligue du Nord étant vraiment ultra-libérale sur la politique fiscale en tout cas, et le mouvement 5 étoiles étant beaucoup plus social.
Mais ils partagent le rejet des élites, de l'Europe, des migrants,
sauf que,
la
sauf
colère
en réalité, des musulmans. En réalité, ils s'en foutent. C'est ça la vérité. C'est qu'ils s'en foutent. Et que ce flou permet en réalité une conquête du pouvoir. Le populisme est une stratégie de conquête du pouvoir, mais
Raphaël,
absolument pas
la question,
un engagement
sur un
projet.
Qui a fait monter
Natacha.
Cette colère qui justifie qu'on se foute du reste? Parce que si cette colère est si puissante au point qu'on se foute du programme économique, c'est que des gens l'ont fait monter, c'est qu'un système a exacerbé cette colère et c'est ça qui est dangereux.
Pour refermer cette page, je demandais au début si c'était une histoire italienne ou si ça pouvait avoir des échos, par exemple en France. En France, on n'imagine pas populistes de gauche et populistes de droite se réunir et former un accord de gouvernement.
Non,
et même on les renvoie souvent dos à dos.
On ne l'imagine pas. Simplement, j'aimerais juste rappeler que l'Italie, loin d'être un pays attardé, a toujours fonctionné comme une forme de laboratoire politique. Or, dans les années 90, il y avait une figure qui s'appelait Silvio Berlusconi. Tout le monde s'en foutait, tout le monde se moquait de lui. Eh bien, aujourd'hui, Silvio Berlusconi dirige les États-Unis d'Amérique sous la peau de Donald Trump.
Et le vrai revient.
Et donc, il y a un enjeu, à mon avis, essentiel. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette question. Et je trouve qu'on en a fait beaucoup sur le Brexit et on en fait très peu sur l'Italie.
Dernier chapitre du duel.
Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler, je me rappelle que je disais ça dans les mémoires des étrangers, parler aux gens pour ainsi dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais.
Cette voix, c'est bien sûr celle de Simone de Beauvoir. C'était à la fin de sa vie et elle revenait sur son œuvre, événement dans la vie de la République des Lettres. Simone de Beauvoir, publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Natacha, ça vous inspire quoi?
Plusieurs choses.
Simone
d'abord,
de Beauvoir, superstar.
Alors, arrêtons avec... même si je pense en effet, hélas, que la publication dans la prestigieuse collection de la Pléiade ne vaut peut-être plus qu'elle valait avant. Vous allez m'accuser de nostalgie.
Non,
mais
jamais.
Je pense
ou
que
de parisianisme.
Ils sont entrés des écrivains qui font qu'en effet, il était temps que Simone de Beauvoir y entre parce qu'elle vaut certainement plus et elle restera davantage. Bon, premier point. Mais deuxième point, après, ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Simone de Beauvoir. Il y a l'écrivain intime, il y a ce travail d'autobiographie qui est absolument passionnant, et puis il y a la figure féministe. Et là, on n'a pas le temps, j'espère que nous aurons l'occasion de redébattre là-dessus, mais Simone de Beauvoir a marqué un moment du féminisme qui ne peut plus aujourd'hui, qui doit être dépassé parce qu'il y a des bouleversements même anthropologiques qu'elle ne pouvait pas prévoir. Et donc sa vision des rapports hommes-femmes.
Alors je ne sais pas si on allait plus que par le passé, mais je disais que c'était une superstar de manière ironique pour dire qu'elle était aujourd'hui en train de redevenir une icône des mouvements de libération des femmes, de mouvements pour l'égalité, des mouvements féministes.
Oui, disons que ce n'est pas pour ça qu'on la lit plus.
Oui,
hélas.
Raphaël.
Non, on ne la lit pas plus, mais par contre, son impact est immense. C'est-à-dire qu'il y a, elle a incarné une forme d'impératif catégorique et de quête d'émancipation. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et je pense qu'elle restera, et elle restera toujours, une figure discutée, mais une figure qui a fait faire un bond de géant à la cause de l'émancipation féminine.
Vous êtes plutôt Mémoire d'une jeune fille rangée ou plutôt Deuxième sexe?
Ah non, mais le Deuxième sexe est une œuvre absolument majeure. Il faut simplement avoir conscience que ça nous parle d'une humanité qui était autre, qui est une humanité d'avant la pilule, d'avant tout ce qui a permis petit à petit aux femmes de reprendre en main leur corps, d'avant le transhumanisme, d'avant tout ce qui est en train de bouleverser l'humanité dans son ensemble.
Ah bon,
donc c'est passionnant, mais il faut maintenant penser autrement.
Je ne pense pas que nous soyons dans une humanité autre, je pense qu'on peut être dans des circonstances historiques différentes, mais fondamentalement, je suis convaincu, moi on pourra en reparler, parce que là on n'a pas le temps, mais que ça peut toujours nous parler.
Il faut le lire.
Il faut lire Simone de Beauvoir, lire Le Castor. Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Comment peut-on être libéral en France dans un pays où c'est souvent un gros mot, où les avocats du libéralisme économique sont souvent aussi des conservateurs assumés ou qui se cachent? L'invité du Grand Face-à-Face ce dimanche, lui, va au bout de la pensée libérale. Exemple parmi d'autres, il publiait récemment une tribune pour la légalisation du cannabis et on va en débattre avec lui. Il est philosophe, professeur à Sciences Po, président du think tank Génération Libre. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour que les choses soient très claires, libéralisme, définition?
La définition la plus consensuelle, c'est donner le pouvoir à l'individu et faire confiance à sa capacité de libre choix, même si elle est aiguillée par des dispositifs d'incitation institutionnelle. Mais...
Comment expliquez-vous qu'en France, le mot libéral soit souvent une insulte?
D'abord, je rappelle que c'est la France qui a inventé le mot libéral, que Flaubert se définissait comme un libéral enragé, et qu'au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était un mot tout à fait passe-partout, voire assez commun et assez accepté. Alors ensuite, il y a eu un basculement après-guerre pour lequel il y a toutes sortes d'explications sociologiques, Raymond Boudon a écrit là-dessus, historiques. Je pense que le rôle de Vichy dans la détestation du libéralisme a été assez important. Les premiers discours de Pétain en novembre 40 sont des discours qui explicitement dénoncent le libéralisme et le libre-échange. Et ensuite, la crise de 29 avait effectivement conduit à une remise en cause de la philosophie libérale, qui a abouti à un certain nombre de réformes au sein de cette doctrine, le colloque Lippmann, la fondation de la Société du Mont-Pèlerin, le schisme entre les ordolibéraux et puis les libéraux français, ensuite les néolibéraux américains. Enfin, c'est un paysage extraordinairement divers. Et le problème, c'est qu'en France, depuis 30 ans, il est représenté par des gens qui incarnent davantage la droite patronale que le libéralisme tel qu'on le pratiquait au 19e siècle, le libéralisme de Bastiat, qui se battait pour le libre-échange contre les patrons de l'industrie à l'époque.
Et aujourd'hui, on la présente, la pensée libérale, comme la liberté du renard dans le poulailler, pour le dire rapidement.
Voilà, mais encore une fois, le libéralisme, c'est pas le chaos, au contraire. D'ailleurs, la naissance du libéralisme au XVIIIe siècle, c'est accompagné de la conception de l'état de droit. C'est même le libéralisme qui a inventé l'état sous bien des aspects, donc il n'y a pas d'association entre les deux. Maintenant, il y a une réinvention de cette doctrine assez importante avec les libertariens américains, un mouvement que je trouve extrêmement séduisant et qui correspond à l'essor des nouvelles technologies. Mais là, ce que fait mon think tank, c'est vraiment défendre le libéralisme classique sur l'ensemble des sujets, donc le cannabis, mais aussi des sujets comme les données personnelles. Est-ce qu'il faut leur donner une propriété privée sur les données?
Vous êtes favorable justement à ce qu'on puisse les vendre, par exemple, nos données personnelles?
Les vendre ou pas, qu'on en ait d'abord. Aujourd'hui, on les vend pour vous, sans que vous en touchiez rien, puisque les plateformes les commercialisent. Moi, je suis favorable à ce que les gens aient la propriété de leurs données. Ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. La propriété, c'est le fructus, mais aussi l'usus et l'abusus.
Un mot, juste avant de laisser la parole à Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Comment expliquer, je caricature à dessein, qu'en France, les libéraux en matière économique soient souvent conservateurs en matière de mœurs, et que ce soit de l'autre côté de l'échiquier politique ou idéologique qu'on trouve ceux qui sont libéraux en matière sociétale et qui sont plutôt étatistes, pour le dire rapidement, en matière économique?
C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que mon but dans la vie, c'est de réconcilier les juristes barbus avec les économistes chauves. Parce qu'il y a une vraie cohérence intellectuelle dans la conception de l'individu. Et j'essaye de faire comprendre aux gens que s'ils défendent le libre-échange, ils devraient aussi se battre pour le droit des prostituées et inversement. Et finalement, je pense que ce sont des gens qui ne se connaissent pas sociologiquement, culturellement, professionnellement, mais quand on les force à se rencontrer et à discuter des principes sur lesquels ils fondent leur raisonnement respectif, et bien souvent ils disent oui, un peu de mauvaise grâce, ils disent oui, je comprends, oui, j'accepte.
Natacha Polony, puis Raphaël Glucksmann, et ensuite on va rentrer dans le détail avec un certain nombre de cas pratiques pour comprendre jusqu'où vous allez justement dans votre exploration du libéralisme.
Natacha. Disons qu'il y a un premier point qui me semble intéressant, c'est que vous définissez spontanément le libéralisme comme reposant sur le libre choix de l'individu, ce qui nécessite de définir la liberté. Où est la liberté dans une société qui produit de l'aliénation? Où est la liberté dans une société qui instrumentalise les pulsions, manipule les individus, ne serait-ce que par l'ensemble des processus du consumérisme, la publicité? Où est la liberté, par exemple, la liberté de choix de celui qui est réduit à l'état de consommateur? C'est-à-dire que votre libéralisme ne peut pas marcher dans cette société-là. Or, il faut réguler pour empêcher, pour préserver les possibilités pour chaque individu de s'émanciper et donc d'être libre.
Gaspard Koenig.
Oui, d'abord, la naissance du marché, c'est aussi la naissance de la régulation. Et ça, Laurence Fontaine, historienne, l'a montré sur les foires et les marchés du Moyen-Âge. Quand un marché émerge, et le régulateur arrive pour s'assurer que les produits sont correctement disposés, que les prix sont justes, que la concurrence est loyale, etc. Donc
c'est pas seulement le marché qu'il faut réguler, c'est aussi la possibilité pour l'individu de s'émanciper.
Après ce que dit Natacha Polony, revient bah, d'ailleurs à ce que critiquait Raymond Boudon dans la critique du libéralisme, c'est-à-dire qu'il y a maintenant tous ces mouvements de sens social qui vous expliquent qu'en fait on n'est pas libre, qu'on est déterminé, qu'on est le produit de tendances sociales et culturelles, qui sont finalement, qui est évidemment une philosophie qui remet en cause la démocratie elle-même, puisque à ce moment-là, pourquoi accorder le droit de vote à des gens qui ne sont pas libres ?
C'est pas ça que je viens de vous dire.
Alors que moi, si vous voulez, je crois
de
beaucoup.
La manipulation, oui, notamment par le marketing.
Je crois beaucoup au consentement. Et c'est quelque chose auquel on ne croit plus beaucoup sur le droit de la famille, comme sur l'échange marchand. Et je pense que les gens ont la possibilité de résister, mais que bien sûr, il faut leur fournir. C'est ça le but de la politique publique, s'il y en a une en paysage libéral, c'est de leur fournir les moyens de l'autonomie. Et ça passe par des politiques plus complexes que la prohibition. Si on parle des drogues, puisque vous y faisiez allusion,
oui.
L'idée c'est pas d'interdire les drogues en disant mais de toute façon les gens peuvent pas choisir parce que les gens sont influencés, parce qu'il y a un milieu social. L'idée, mais c'est beaucoup plus compliqué pour le régulateur, c'est de proposer de faire en sorte que les futurs utilisateurs de drogue soient informés, que les conditions soient correctes, qu'il y ait des campagnes de prévention, et c'est beaucoup plus compliqué. Je pourrais dire la même chose sur les prisons et le système pénal. C'est plus compliqué d'avoir des prisons ouvertes où vous responsabilisez les prisonniers en leur faisant confiance pour qu'ils s'échappent pas, plutôt que des prisons fermées, c'est facile, tout le monde se tape dessus. Et je pourrais dire la même chose sur le terme de politique sociale, c'est pour ça qu'on défend le revenu universel, c'est qu'on dit si vous voulez émanciper les gens, oui. Il faut effectivement qu'ils aient de quoi manger, on en est bien conscient. Et plutôt que de faire des politiques de lutte contre la pauvreté qui sont des politiques conditionnelles et finalement fondées sur la détestation des inégalités plus que véritablement sur la recherche du bien-être individuel, donnez-leur un chèque en blanc, donnons-nous à tous une somme d'argent, parce qu'on croit effectivement au libre choix, on croit que les gens sont les mieux à même de déterminer leurs propres besoins, et ça a été montré, y compris dans des pays où les gens sont peu éduqués, dans des expériences de revenu universel, en Inde, en Namibie.
C'est intéressant de vous entendre défendre le revenu universel, non, alors que c'était une proposition de Benoît Hamon en France, qui est plutôt loin de votre sensibilité politique ou idéologique.
Oui, enfin, on peut en discuter.
Mais Raphaël Glucksmann.
Non, moi, ce que je vous reconnais, c'est la cohérence. Et la cohérence sans prévention... a priori campiste. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout d'une logique libérale, y compris sur le revenu universel, parce que je pense qu'effectivement, même d'un point de vue libéral, si on veut assurer l'autonomie et le libre choix des individus, il faut leur donner les moyens de la subsistance. Simplement, ma question, elle est sur le fond même. Et d'ailleurs, votre cohérence, elle est illustrée par un article que vous avez publié dans Le Point sur Emmanuel Macron, où vous soulignez,
du
point de vue libéral, il y a quand même un immense problème dans la conception verticale et monarchique du pouvoir.
Bien sûr, sur les institutions.
Des institutions de la Ve République, en particulier telles qu'elles sont exploitées par Emmanuel Macron. Donc, il y a une cohérence. Maintenant, moi, mon problème, c'est que le sens même d'une vie humaine n'est pas la seule autonomie. Et il y a un défaut là de compréhension, à mon avis, de l'humain, qui est de penser que nous pouvons vivre notre liberté de manière solitaire, oui. Et que nous n'avons pas besoin de nous inscrire dans des structures collectives. Oui.
C'est pas une conférence, Raphaël.
C'est pour moi le risque. Non, mais faut que je termine mon raisonnement.
Il y a toujours des gens qui posent des questions interminables dans les conférences, vous savez.
C'est vrai.
Mais bon, bah allez-y.
Mais la question des solidarités,
et la question de l'individu dans le collectif, etc. Et là, je pense qu'il faut distinguer de manière extrêmement précise deux champs, le champ du politique et le champ de la société civile. C'est une chose de dire que politiquement, la régulation doit être agencée pour que chaque individu puisse faire ses choix. Et c'est une autre chose de dire que dans la société civile et l'espace de la société civile, vous pouvez évidemment, et c'est heureusement, vous retrouver entre communautés, entre familles, etc. Je prends l'exemple du droit de la famille, par exemple. Aujourd'hui, le droit de la famille, il est imposé par le haut. Il est imposé par l'État. On vous force à être une famille via, par exemple, la réserve héréditaire. Moi, je dis, mais si, à partir du moment où on va individualiser l'impôt, on va privatiser, entre guillemets, le droit de la famille, est-ce que les gens vont cesser de vivre en famille? Bien sûr que non. Mais ça sera un choix d'autant plus libre. Et cette appartenance à la collectivité sera choisie de manière d'autant plus indépendante que les structures collectives ne se reflèteront pas au niveau politique.
Si on avait suivi votre logique, il n'y aurait pas eu en France, par exemple, quelque chose qui s'appelle l'école républicaine. Parce que les familles étaient contre le fait de donner leur enfant à éduquer à l'État et aux instituteurs. Les curés auraient eu la main mise sur les consciences des enfants pendant encore de longues décennies et des siècles. Donc il faut à un moment que la puissance publique soit habilitée à créer les conditions sociales de l'autonomie de chacun.
Alors, sur l'éducation, je considère que de 0 à 18 ans, effectivement, l'État a tout son rôle à jouer pour émanciper les gens, de leur, en tout cas leur donner les moyens de s'émanciper de leurs préjugés, etc. Après, il y a une manière de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a un cursus éducatif qui est extraordinairement uniforme. L'option qui a été prise au Royaume-Uni de faire des free schools, par exemple, c'est-à-dire de permettre de faire de l'éducation publique, mais pas forcément de l'éducation d'État, c'est-à-dire c'est financé par le public, vous avez un certain nombre de normes, mais ensuite chacun peut expérimenter sa pédagogie, sa méthode, et donc vous autonomisez considérablement et vous responsabilisez considérablement les écoles.
À Birmingham, les 5 principales écoles sont actuellement tenues par des associations salafistes grâce au système des free schools qui a quand même quelques légers défauts, et en particulier celui de ne pas créer du collectif, c'est-à-dire à partir de valeurs communes. Limite de votre... Oui, d'accord, mais ce sont des valeurs communes communautaires. La question est de savoir quelle est l'échelle de la communauté.
Absolument.
Et c'est tout le problème de votre raisonnement, quand vous dissociez totalement société civile et politique. Et vous oubliez une chose, c'est que votre système ne fonctionne finalement que dans des sociétés où les appartenances, les liens traditionnels n'ont pas encore été détruits par votre propre système.
Gaspard Koenig.
Oui, alors, c'est pas mon système qui est détruit, mais effectivement, mon cadre idéal, moi, c'est l'Empire. C'est l'Empire européen.
Lequel ?
L'Empire européen, par exemple. C'est-à-dire une conception de l'Europe où les droits, les grandes règles de droit individuel, de concurrence, de marché, sont établis au niveau européen. Et où ensuite, de manière très autonome, les régions, les groupes, les collectivités peuvent se former de manière spontanée. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les autonomistes, qu'ils soient corses, qu'ils soient catalans ou qu'ils soient écossais, sont extrêmement pro-européens. Et ça, je trouve que c'est le bon mélange. Et ça illustre bien cette dissociation d'un côté de la politique et de la société civile, de l'autre, et c'est la même chose, du droit et de la morale. En disant que ce n'est pas au droit de juger et d'orienter les comportements de chacun.
Alors justement, question très pratique, et elle revient régulièrement dans le débat public depuis quelques années. Est-ce que vous êtes favorable à la GPA ? Est-ce que, selon vous, une femme doit pouvoir louer son ventre ou son corps ?
Complètement, oui. D'ailleurs, on va publier bientôt un rapport sur le sujet. Si vous voulez, il va y avoir des questions assez compliquées sur le transhumanisme, notamment sur les questions d'eugénisme libéral. Est-ce qu'on peut créer la vie et la planifier ? La GPA est une question quand même beaucoup plus simple, puisque c'est une personne consentante, qui est la mère, enfin la mère porteuse, par exemple, qui s'appartient elle-même dans mon système, qui a la possession de soi.
Oui.
Et si vous voulez, aujourd'hui, le Conseil d'État a pris le relais de Saint Paul. C'est-à-dire que Saint Paul vous dit « Dieu est dans ton corps et ton corps est dans Dieu » et donc tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et c'est très 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 présent dans la tradition abrahamique que je ne m'appartiens pas à moi-même. C'est Dieu qui possède mon corps, c'est pour ça que je ne peux pas expérimenter sur moi-même, etc. Et aujourd'hui, la notion de dignité humaine qu'on nous ressort à toutes les sauces dès qu'il est question de ces choses-là, en fait, n'est que la sécularisation de cette tradition judéo-chrétienne qui fait que vous êtes exproprié de vous-même.
Pour vous, la propriété sur la prostitution, de soi, c'est un principe absolu. Pour la prostitution, mais... un cas plus extrême, vous êtes favorable à la vente d'organes ? Qu'on puisse vendre ses organes, par exemple, ou pas ?
Vous me prenez un peu au dépourvu sur la vente d'organes, mais j'entends les arguments. Par exemple, il y a un très bon papier de Gary Baker, qui est un prix Nobel américain néolibéral, sur la vente d'organes. J'ai pas étudié le sujet, mais enfin, je suis pas fermé à ça. Je pense qu'il faut
si la propriété de soi est un principe.
Sérieusement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes. Vous avez un problème d'offre et demande sur le marché des organes. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'organes. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être dans un système utilitariste efficient où les gens ne meurent pas parce qu'effectivement il y a des échanges libres? Ou est-ce qu'il...
La
question se pose en tout cas.
Comme dans tous les systèmes parfaitement cohérents, dans les systèmes de pensée parfaitement cohérents, c'est que le raisonnement, quand il est mené à son terme de manière hors sol, fonctionne. Mais vous voyez bien qu'il y a des rapports sociaux, des conditions sociales, des environnements et des situations dans lesquelles les idées se déploient. Et donc, en théorie, d'un point de vue libéral, on peut être pour le fait de vendre ses organes, parce qu'on est propriétaire de soi-même, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on est acculé à la misère, on va être acculé à se séparer de son propre corps, pièce par pièce, pour faire plaisir à des gens très riches qui sont socialement dans
des équilibres. C'est pour ça que je pense que le revenu universel n'est pas seulement... dans ce système-là, une petite gâterie sociale pour lutter contre la pauvreté. Je pense que c'est une pièce essentielle du système. Et aujourd'hui, tous les libertariens de gauche, qui est finalement l'école dans laquelle je me définirais le mieux, le soutiennent.
Libertariens de gauche ?
Oui, les left libertarians, ou on les appelle aussi bleeding heart libertarians. Enfin, il y a un mouvement intellectuel très fort aux États-Unis aujourd'hui autour de ces idées, qui est très sophistiqué, puissant, intéressant et nouveau. Et donc, je pense que le revenu universel est une clé
est absolument essentiel dans ce système-là, parce que c'est ce qui vous permet de faire le choix de vos valeurs. À partir du moment où vous avez toujours, et après on peut discuter des montants, mais la théorie c'est ça, à partir du moment où vous avez toujours la possibilité de vous retrancher dans votre petite coquille individuelle, parce que vous avez ce revenu qui ne vous échappera jamais, du coup, de l'autre côté, il faut estimer, vous fondez le libre arbitre en société ouverte. Il faut estimer que du coup, tous vos choix deviennent volontaires dans la mesure où vous avez toujours la possibilité de faire autrement.
Deux petites remarques. D'abord, il est tout de même assez frappant de voir à quel point le mouvement libertarien tel qu'il se développe aux États-Unis le fait en assumant une dimension non démocratique, c'est-à-dire que les penseurs libertariens qui aujourd'hui expriment le mieux leurs idées estiment que la démocratie ne fonctionne pas et que finalement, ils savent ce qui est bon pour l'autonomie des individus et qu'ils vont eux-mêmes le prendre en main, ce qui déjà pose un problème et à mon avis n'est pas totalement anodin. Mais surtout, dans votre raisonnement, en fait, vous partez d'une anthropologie qui est fausse, à savoir que l'homme pourrait vivre bien et heureux, détaché de tous les liens qu'il peut avoir, non seulement avec ce qui l'a précédé, mais avec ce qu'il a autour de lui. Non, vous n'y répondez pas.
Si, c'est-à-dire que ça relève de la société civile, pas de la fabrique de la loi.
Mais ça ne relève pas de la fabrique de la loi, ça relève de ce qu'on appelle une communauté, c'est-à-dire une communauté politique, un choix de vivre ensemble qui relève donc de la volonté des individus, mais aussi de leur histoire. Or là, vous inventez une société qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de géographie, qui n'a pas de culture spécifique, et vous nous dites ça va marcher et les gens seront heureux.
Alors laissez Gaspard Koenig vous répondre.
On voit que ça ne marche pas.
Pas du tout, moi je suis par exemple très patriote, j'adore mon pays, j'adore ma langue, j'ai l'impression de former... d'être partie prenante à plein de communautés différentes d'ailleurs, qui se superposent de manière intéressante. Et je me sens d'autant mieux français que je ne demande pas à l'État d'assurer cette identité pour moi. Et que cette identité se construit dans précisément l'ordre spontané des échanges entre les hommes, et que je ne demande pas à la puissance publique de la surimposer. Et si vous voulez, ça paraît un peu abstrait, mais ça a des conséquences très concrètes sur les lois, sur la laïcité et autres. On peut faire des choix personnels sans vouloir que la puissance publique les reflète.
Raphaël Glucksmann.
Mais en fait, vos principes, même s'ils ne sont pas dans les faits, exprimé de manière aussi claire que dans votre pensée, mais vos principes sont plus ou moins en train de triompher dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on tend de plus en plus vers l'individualisation, vers l'autonomisation des choix, vers la personnalisation des
destins. Vous êtes d'accord, Gaspard Koenig ?
Je reviens sur
le diagnostic, mais continuez.
Répondez par oui ou par non. Comme ça, je peux continuer. Non, mais...
Non.
Non, vous n'êtes pas d'accord ? Bon, moi, je pense qu'on est dans une société de plus en plus individualisée. Le problème de cela, c'est que au bout de l'individualisation, au bout de la crise des structures collectives, au bout effectivement d'une forme de renoncement de la puissance publique à instaurer du commun, eh bien on a un vote Trump, on a un vote finalement dans les comtés les plus laminés en termes de structures collectives, on a un vote pour un chef parce que finalement les gens ont besoin de s'inscrire dans des structures collectives et ont besoin que la politique permette cela. Et moi, je pense que à la fin du processus, on risque de tomber dans l'autoritarisme, c'est-à-dire l'antithèse de ce que vous voulez.
Gaspard Koenig.
D'abord, je vois que de toute façon, on ne forme plus nation. Les États-nations, c'est fini. Vous voyez, quand vous parlez justement des États-Unis, de la France, faites-moi rire avec les valeurs collectives. Les gens défendent maintenant des choix extrêmement différents et les sociétés sont extrêmement clivées. Donc, c'est bien, ça reflète un processus qui fait que maintenant il va falloir réinventer des formes de gouvernance, il y a de démocratique, mais d'autres formes, il y a des expériences de démocratie liquide, enfin il y a toutes sortes de choses qui sont imaginées. Je pense que la voter pour un gouvernement pour 500 millions de personnes avec une sorte d'unité nationale donnée d'avance est quelque chose, effectivement, plus on appelle au vivre ensemble, aux valeurs communes, plus on admet finalement qu'elles ont disparu. Ensuite, vous faites comme si c'était une fatalité, c'est pas une fatalité, c'est un choix.
Il y a des lois qui ont décidé de déréguler et d'aboutir à cette société qui ressemble quand même.
Rien n'est dérégulé, parce qu'aujourd'hui tout est beaucoup trop serré. Vous n'avez jamais eu dans l'histoire du monde autant de régulations, autant de normes, autant de lois dans l'ensemble des pays développés.
Donc on peut pas et par ailleurs,
pour moi, c'est la, mais non, mais et sur la finance, c'est l'abus de régulation qui crée qui crée justement les brèches où les délits peuvent se faire. C'est parce que les gens n'ont pas de responsabilité. Moi, je suis pour que les banques fassent faillite, par exemple. Vous voyez, il y a deux options. Soit on laisse les banques faire faillite et on dérégule, soit, comme on fait maintenant, on s'assure qu'elles ne fassent pas faillite en les gérant d'en haut et en les hyper-régulant, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer. On est loin de la dérégulation financière. Après, je voudrais quand même répondre sur le constat. Ça. Je pense pas qu'on soit dans... Je pense que cette liberté individuelle, c'est toujours un combat. Qu'aujourd'hui, par exemple, puisque vous y faisiez allusion, Raphaël, les gens sont privés de leur autonomie, notamment par l'utilisation qu'on peut faire de leurs données. Mmh. Et que donc, les algorithmes, etc., le scandale de Cambridge Analytica fait qu'effectivement, les gens sont très influencés dans leurs choix individuels par ce qu'on leur donne à voir, ce qu'on leur donne à entendre, etc. Et que pour ça, il y a des réponses. Et comme toujours, il va y avoir la réponse tatique, si vous voulez, qui va dire « Ah, mais on va réguler tout ça, et puis on va demander aux plateformes de censurer les contenus qui sont biaisés, qui appellent à la haine, etc. Oui. » Vous avez la réponse libérale qui dit « On va redonner aux gens la propriété de leurs données pour que eux-mêmes en ligne puissent faire les choix, s'associer avec qui ils le souhaitent, pour qu'ils soient plus indépendants de l'algorithme parce qu'ils auront pu y échapper par un certain nombre de moyens. » Et donc tout ça, ça demande de la régulation publique, de la régulation fine, la propriété privée. C'est assuré pour le moment par l'État. Peut-être un jour, ça sera assuré par la blockchain de manière plus spontanée, parce que je signale qu'il y a quand même des nouveaux... Enfin, il y a une contre-culture incroyable qui émerge aujourd'hui autour des crypto-monnaies, par exemple. Et vous voyez bien que vous avez un système hyper rigide et il y a des fuites. Il y a des gens qui fuient de ce
d'accord,
système.
D'accord, mais
l'émission touche à son terme.
Dans votre système, pardon, mais il y a une chose qui n'apparaît jamais et que vous oubliez totalement. Ça s'appelle le bien commun et les biens communs. C'est-à-dire ce qu'il n'est pas possible de fractionner entre les individus et de monétiser. Et ça n'apparaît jamais. Vous secondes. Régulez par le droit du marché comme si tout appartenait aux individus.
Non, bien sûr. Vous avez des externalités négatives que l'État doit réguler.
Externalités négatives.
Non, mais
par exemple, le fait qu'il y ait une taxe carbone, parce que quand vous émettez quand vous polluez, vous êtes nocif au reste de la communauté, bien sûr, doit être régulé par une puissance publique. Donc, mais simplement, il faut bien distinguer ce qui est du domaine du commun, parce qu'il y a ce genre d'externalité, ce qui est du domaine du libre choix et de la libre association.
Mais en fait, la conception extrêmement minimale de la politique comme arbitre négatif, en réalité. Justement.
Absolument, complètement. Oui, mais liberté négative de l'autre côté.
C'est exactement l'antithèse de ce qui a été à la base de la République française.
Oui.
Ah, sur les années de la République, moi je trouve que les premières années, 1789, 1792, la constituante, pour moi c'est la référence, parce que c'est du contractualisme pur et dur, que ça soit dans le droit de la famille, que ça soit sur les marchés, que la loi Le Chapelier.
Le moment où la République s'installe,
malheureusement, la République est une forme d'autoritarisme, ça c'est sûr.
C'est passionnant, mais l'émission se termine, c'est pas la fin du débat, loin de là, vous reviendrez, Gaspard Koenig, pour reprendre cette discussion, je l'espère. Je vous souhaite un bon dimanche, merci Natacha, Raphaël, je vous retrouve la semaine prochaine, merci à Ophélie Vivier d'avoir préparé cette émission, à la réalisation Marion Lelay, à la technique Tristan Gratalon, à suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.